Tarnac, on lâche pas l'affaire.
Épisode du lundi 26 mars. Tarnac, on lâche pas l'affaire. C'est plutôt l'affaire qui nous lâche pas. C'est dingue cette histoire, c'est devenu une discussion sans queue ni tête entre la présidente du tribunal, la juge et les 8 prévenus. La discussion est rythmée par un ordre du jour, mais toujours les mêmes positions reviennent. Ce lundi 26 mars, je n'ai pas entendu une seule fois le procureur et quasiment pas les avocats. Apparemment, la journée de vendredi à Duisy a été dure pour le procureur et pour la police. À plusieurs moments de la reconstitution, c'était trop évident que la version policière du sabotage du TGV Est ne tenait pas la route. Du coup, aujourd'hui, lundi, on n'a pas du tout entendu le procureur. Rien, aucune question à poser à personne. Ses réquisitions, il les fera mercredi et jeudi. Il y a eu plusieurs prises de parole touchantes de la part des prévenus. Dommage qu'on n'ait pas le droit d'enregistrer dans le tribunal. Pour la radio, c'est pas pratique. On pourrait leur demander de refaire la même chose au micro à l'extérieur, mais ça donnerait pas la même chose. Les prévenus rappellent sans cesse qu'il y a des centaines de personnes qui subissent ces procédures chaque année et qui n'ont pas autant de moyens pour se défendre. Ce procès, c'est un grand théâtre imposant, mais qui ne croit plus trop en lui-même. Les délibérés seront rendus le jeudi 12 avril. Tout le monde rigole, la juge semble avoir de la tendresse maintenant pour les prévenus après 2 semaines à se parler, mais c'est peut-être une tactique. Bertrand, Elsa, Hildune, Julien, Mathieu, Benjamin, Manon, Christophe, tous ont expliqué comment leur garde à vue était axée uniquement sur la fabrication d'un groupe mené par un chef. Ça ne tient pas la route. Ce matin, ça tournait autour de cartes d'identité retrouvées dans l'appartement à Limoges, occupé en 2008, entre autres, par Christophe et Manon. Christophe a été étonné d'avoir d'abord été épargné par les arrestations du 11 novembre 2008, puis arrêté un an après et considéré comme un faussaire, alors qu'il n'a utilisé aucun faux papier. La présidente a noté qu'il avait le logiciel Tor sur son ordinateur. La présidente lit ce qu'ont écrit les policiers. Christophe est accusé de falsification de carte d'identité. Il dit qu'il y a beaucoup de monde qui passe dans cet appart, qu'il n'était pas au courant de tout. Et finalement, c'est son propre avocat, Maître Assous, qui finit par lui demander « Et si vous saviez qui avait fait ces cartes d'identité, est-ce que de toute façon vous le diriez au tribunal ?» Et le prévenu répond « Évidemment que non. » Et on passe au point suivant. Ces cartes d'identité retrouvées chez quelqu'un qui en plus maîtrise bien Photoshop restent une des pièces les plus sérieuses de l'accusation, la plus grave finalement, après le fiasco des reconstitutions de Duisy vendredi. On est ensuite passé à la bibliothèque. 5000 livres environ, chacun faisant 250 pages en moyenne, d'après une estimation de Julien, et de cela, le tribunal a extrait seulement quelques lignes qui parlent de sabotage. La présidente a l'air de ne pas vouloir accuser les gens de lire et de posséder des livres. Elle dit « Je vais continuer avec l'insurrection qui vient, sujet acrobatique s'il en est, compte tenu des débats que l'utilisation de ce livre dans l'instruction a provoqué. » Elle cite un courrier de Mathieu au juge d'instruction qui affirme que c'est lui l'auteur de l'insurrection qui vient. Dans les médias, en novembre 2008, c'était très important de dire que c'était Julien qui avait écrit ce livre. Et aujourd'hui, finalement, c'est plus très important. Avoir écrit l'insurrection qui vient ne fait plus officiellement partie de l'accusation. La présidente s'étonne. Il est assez rare pour les affaires qui intéressent le juge pénal de voir des étagères aussi fournies en livres. On aurait pu les accuser de tout et n'importe quoi avec ces 5000 livres. Julien souligne qu'il a eu quelques vols de la part de policiers. Des livres pris le 11 novembre 2008, mais qui ne se retrouvent pas dans la procédure, sans doute parce qu'ils ne pouvaient pas être exploités facilement. Les policiers ont pris des livres au titre aguicheur pour eux, comme par exemple « Bréviaire du chaos ». Mais manque de bol, « Bréviaire du chaos » s'est publié par une maison d'édition pas du tout révolutionnaire, ça ne colle pas du tout avec le récit policier. Le livre n'était pas vraiment exploitable dans la procédure et il a disparu. Ou c'est un autre qui a disparu. La présidente écoute les inculpés. Ça ne compte certainement plus beaucoup dans la décision du 12 avril, ça ne compte plus beaucoup pour grand-chose, c'est juste le seul moment dans la procédure pour se défendre de cette procédure qui pourrit la vie depuis 10 ans. Quasiment tous les prévenus ont dit aussi qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y a pas de groupe de Tarnac. Et la procédure, en des années de surveillance et 10 ans d'inculpation, a pourri des liens entre les gens. Benjamin en parle. Il parle des liens entre les gens, car la présidente l'entend sur la perquisition au Goutaillou en novembre 2008. « Vous avez dit que ce n'était pas nos idées et nos manières de vivre qui nous amenaient ici, mais j'ai bien peur que si. » Benjamin a dit un des trucs les plus tristes de cette affaire. comment les personnes surveillées et leurs proches finissent par absorber petit à petit la logique paranoïaque qui vient de la police. Vers 2003-2004, il remarque que lors de contrôles de routine, la police passe pas mal de temps sur ses papiers, sur l'ordinateur, elle pose pas mal de questions. Bref, il a une fiche de renseignement sur le dos. Et à partir de là, quand tu sais que t'es fiché, tu deviens méfiant, tu tiens le bar de Tarnac, et tu te demandes si le mec qui entre là, que t'as jamais vu avant, ça serait pas un indique. Et ça, sans arrêt, pendant 15 ans, et encore maintenant. Et ça pourrit les liens. Et la présidente ne répond pas. Elle n'enchaîne pas, évidemment. La présidente ne répond pas non plus quand Elsa rappelle qu'un policier antiterroriste lui a demandé en garde à vue en novembre 2008 « Alors, t'aimes ça, la bite ?» Ça passe. Les greffières du tribunal notent, mais la présidente ne bronche pas. Il y a comme un malaise. La présidente lit le rapport de la police depuis 2 semaines. Elle est la justice, elle n'est pas la police, donc elle prend quelques précautions oratoires, parfois, pour lire le rapport de la police, mais elle ne répond pas de ce qu'a dit la police. Et c'est ça qui est énervant, ce double jeu. Bertrand dit, pour la prise d'ADN, les policiers m'ont dit, à ton avis, combien de temps il nous faut pour te mettre à poil à tous les trois ? La présidente entend, silence total. Tout ça est un peu gênant, ça ressemble à un sketch permanent. Alors on peut passer 10 minutes à savoir si Julien avait le niveau d'allemand suffisant pour lire un livre épais sur le mouvement autonome, y compris les passages sur le sabotage du train des déchets nucléaires. Ça rigole, ça se détend, quand Julien relève qu'en France, beaucoup de monde fait 7 ans d'allemand, mais que 2 ans après, personne ne peut répondre à une question simple en allemand, et que lui, il a beau avoir eu 18 au bac en allemand, il peut juste avoir une conversation de base, mais il ne lit pas Heidegger dans le texte. Quand Christophe explique que oui, il a refusé de donner son ADN, et que c'est important de refuser de donner son ADN, qui pourrait être utilisé par n'importe quel régime politique pour faire n'importe quoi, quand il a vu qu'on l'arrêtait en lui demandant quelles étaient ses idées politiques, il était bien clair pour lui qu'il fallait refuser de donner son ADN à cette police. Rien, la juge ne répond pas. Maître Assous, l'avocat, a demandé au procureur ce qu'il pensait de la sanction du refus d'ADN, car il n'y a pas encore de jurisprudence suffisante. Le procureur n'a pas répondu. Bon, il y aurait encore plein d'exemples à donner, les audiences sont longues et détaillées. Au 9e jour du procès, après 10 ans de procédure, on a franchement l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à dire dans ce théâtre feutré. Quelques témoins sont appelés mercredi, des éléments sur la situation personnelle des prévenus sont prévus mercredi, les réquisitions du procureur sont attendues mercredi et jeudi, les plaidoiries de la défense jeudi et vendredi. Et enfin, des déclarations des prévenus pour finir vendredi. Et le délibéré, ce sera jeudi 12 avril. On vous racontera l'ambiance en direct sur Twitter, Radio Vestiviaire, et à 13h30 chaque jour à la radio et sur radiovestiviaire.com. Pendant ce temps, l'industrie nucléaire continue à avancer et ce samedi à Tarnac, on a refait le point sur la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse, où la police met en prison les opposants. Interview.
Nous, on fait le lien pendant ces week-ends entre dans quel contexte ont été faites les arrestations à Tarnac et quels faits il reste pour ces inculpations. Les faits de participation à une manifestation qui luttait contre le sommet de l'immigration à Vichy et puis des faits de dits sabotages sur des voies de SNCF qui ont été revendiquées par des antinucléaires allemands. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la lutte contre le nucléaire se porte sur le transport de déchets nucléaires et le stockage des déchets nucléaires.
Je crois que c'est les deux prises qu'on peut avoir face à l'industrie atomique, en fait. C'est-à-dire que face à cette filière qui est si démentielle, qui est si énorme, en fait, on a du mal à trouver la brèche, la prise pour bloquer la machine, en fait, pour bloquer... Et donc, à travers les transports et la question des déchets radioactifs, on trouve une brèche où on bloque physiquement pendant un temps, où là, donc c'est pendant un temps avec le blocage des trains Castor, ou avec l'occupation du Bois-le-Jus à Bure. On a occupé pendant 2 ans, près de 2 ans, en fait, cette forêt contre le début du chantier, en fait, de poubelles radioactives. Donc voilà, c'est trouver les armes et les lieux pour stopper la machine et face à des mesures, quoi.
Bon, on est 10 ans après les faits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la lutte antinucléaire ?
Je crois que l'enjeu qu'on avait, nous en tout cas, je parle au niveau de Bure, c'était de réencastrer en fait la question nucléaire avec la question du territoire, en fait, d'essayer de montrer qu'on luttait contre le nucléaire et son monde aussi, donc de réfléchir au nucléaire non pas comme une énergie, en fait, une réaction physico-chimique, mais vraiment comme un ordre social, comme un mode de gouvernement qui allait avoir des conséquences très concrètes, très, très palpables sur un territoire donné. Et c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on vit à Bure, en fait, avec une présence policière énorme, une présence militaire, avec la destruction d'une forêt, l'accaparement des terres agricoles. Et donc c'était d'essayer de discuter du nucléaire de manière différente, pas seulement sous l'angle de l'expertise, sous l'angle scientifique, technique, qui finalement nous empêche parfois d'être très inclusif ou d'être ouvert aussi à une autre manière de lutter, en fait, essayer d'élargir un peu ce spectre-là, et par la question du territoire. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui aussi pour la lutte antinucléaire aujourd'hui, c'est comment on ranime la flamme, en fait. Comment on renouvelle le mouvement alors qu'il est quand même dans une situation de vieillissement, une situation aussi de routinisation des pratiques. On se rappelle tous des dying, des petites flash mobs faits par le mouvement antinucléaire, mais aussi la contre-expertise, quoi. Et c'est comment on retrouve une prise, un front, comment on construit un front contre l'industrie atomique. Et c'est pour ça que la question des transports et la question des déchets radioactifs est essentielle, quoi. C'est vraiment ces deux éléments-là qui sont dans toute la chaîne, en fait, de production et de l'industrie atomique. Et ben, ces deux angles, ces deux brèches dans lesquelles on peut s'engouffrer, quoi.
À Bure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tente l'industrie nucléaire et qu'est-ce que vous y tentez, vous?
Donc l'industrie nucléaire vise à enfouir à 500 mètres sous terre, donc aux confins de la Meuse, à Bure, ces déchets les plus radioactifs. Ces déchets, c'est vraiment les rebuts toxiques de notre modernité. C'est-à-dire qu'en 40 ans d'énergie atomique, on a créé des déchets pour des centaines de milliers d'années. Et donc c'est ces déchets-là qu'on veut enfouir loin des yeux, loin du cœur, vraiment en catimini, dans un territoire rural paupérisé, abandonné. Et donc ça, c'est le projet un peu démentiel de l'industrie atomique. C'est aussi une manière pour elle de montrer qu'elle a une filière qui est propre, en fait, qu'elle a une solution pour ses déchets, ce qui est complètement faux, en fait, quand on creuse les questions d'un point de vue plus technique. En fait, on voit tous les risques intrinsèques au projet, donc CIGEO, de poubelle nucléaire, notamment des risques d'incendie, des risques d'infiltration d'eau. Et alors nous, face à ça, on essaye d'habiter le territoire, de lutter physiquement contre l'implantation de ce projet, donc en s'implantant sur le territoire, en s'ancrant, en retapant des maisons, en achetant, en louant, enfin en habitant les villages alentours, et aussi en occupant jusqu'à février dernier le Bois-le-Jus, une forêt de 220 hectares où devaient débuter les travaux. Et donc suite à une expulsion violente, il y a eu quand même plusieurs amis qui sont même retrouvés en prison, d'autres qui sont interdits de territoire. Donc là, la machine juridique et répressive est en train de fonctionner à plein régime, un peu des choses similaires parfois à ce que vous avez pu subir à Tarnac, quoi, c'est-à-dire des perquisitions. Donc voilà, la société nucléaire est une société policière, on le ressent dans le Limousin comme dans la Meuse, quoi, et c'est là aussi un parallèle, je crois, intéressant à faire, quoi.
Vous comptez pas en rester là suite à l'expulsion du Bois-le-Jus? En tout cas, au niveau d'être plus nombreux à rejoindre cette lutte contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, c'est quoi les moments qui vont venir?
Oui, l'expulsion du Bois-le-Jus, c'est vraiment une première manche, en fait. La bataille, elle va être longue, en fait, et elle ne fait que commencer. Il y a l'intention de réoccuper cette forêt, il y a l'objectif aussi de continuer à habiter le territoire, de continuer à s'ancrer localement, à lancer des activités paysannes, notamment, et maraîchère, une brasserie, tous ces projets-là. Mais il y a aussi l'idée, le 16 juin, de faire une journée nationale, en fait, de mobilisation contre cette poubelle nucléaire, et donc de venir tous se rassembler à Bar-le-Duc le 16 juin et de défiler, et d'être cette fois-ci nombreux et nombreuses pour montrer que c'est vraiment pas qu'un enjeu local, que c'est un enjeu d'ordre national, voire international, et qui aussi sentir, je crois, et c'est important, toute la solidarité vis-à-vis de cette lutte, quoi, parce que se sentir parfois moins seul quand on se retrouve aux confins de la Meuse à lutter contre un projet si titanesque, on a besoin de se sentir fort tous et tout ensemble, en fait, et on l'a vu avec la création de 70 comités de soutien à travers la France, mais là, aujourd'hui, on a besoin de se rassembler, de se retrouver et de construire ensemble la lutte demain, quoi, et sachant qu'elle va être longue, quoi, le chantier risque de durer 130 ans, donc on a encore du temps pour trouver d'autres brèches et d'autres manières de lutter et de stopper ce projet démentiel.
Où est-ce que vous en êtes au niveau de la répression policière et judiciaire ? Parce que ça a l'air assez conséquent.
Il y a presque une vingtaine de procès qui sont en cours. Deux amis qui sont en prison pour donc 3 mois de prison ferme, ils ont pris. Des amis qui sont interdits de territoire, des paysans qui ont été persécutés aussi, pour outrage à agents ou pour avoir prêté leur matériel à des opposants. Donc en fait, on voit qu'ils ciblent autant des opposants que des habitants, en fait, qu'il n'y a pas de distinction dans la répression. Et donc voilà, la machine, elle tourne à plein régime et nous, on va se mobiliser en conséquence. Il y a eu aussi, face à l'annonce en fait de la prison ferme, une réaction spontanée au tribunal de Bar-le-Duc, c'est-à-dire qu'il y avait une centaine de personnes qui se sont levées, qui ont renversé les tables, qui ont cassé le buste de Marianne qui trônait au tribunal, qui l'ont saccagé en fait. Parce qu'il y a en fait une rage et une colère complètement légitime en fait qui s'expriment aujourd'hui face à la violence en fait de la répression, et donc face à ça on a nos petites armes et voilà, avec avec humilité, quoi, et on va essayer d'agir en conséquence et pas se laisser écraser et asphyxier par la répression, quoi. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy.